quelle est la dette technique à adresser à travers tout ça? C'est un peu ce que Mathieu disait. Si on a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes techniques à travers le temps, est-ce que c'est mieux de faire une réécriture complète qu'à ce moment-là, adresser cette dette technique-là? Mathieu, je pense que tu avais des statistiques ou des chiffres qui venaient de grandes firmes là, qui ont fait un petit peu un sondage pour savoir c'est quoi la dette techno ou le pourcentage de temps qu'on devrait adresser par rapport à ça. Là.
Oui, en fait, McKinsey qui fait beaucoup de recherches sur les investissements pour les grandes entreprises du Fortune 500. Ils ont évolué pour la dette technique. Ils considèrent que surtout dans le top 20, dans le top 20%, eux autres, ils considèrent qu'il y avait à peu près 20% de dette technique au sein de l'entreprise. Versus ceux qui sont dans le bas du top 20, encore une fois, des grandes entreprises, eux autres, ils avaient à peu près 40% de dette technique qui étaient nécessité, critique ou sévère, de faire une modernisation. Donc, conclusion rapide là, pour aujourd'hui, c'est-à-dire normalement ceux qui investissent plus au niveau de la dette technique, donc en ont moins et réussissent mieux aussi. Plus que finalement, moins tu réussis ou moins tu investis, il y a un risque de cause à effet à ce niveau-là. Là.
Bienvenue au Podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le Podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs ayant une idée de produit technologique innovante, communément appelé SaaS, plateforme web, application web ou mobile, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Nous partageons trucs, astuces, histoires à succès ainsi que des apprentissages d'échecs d'entrepreneurs de renom. Le Podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV, le chiffre 2, CEO.com, aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leur idée d'application logicielle afin d'en faire un succès d'envergure. De retour sur le Podcast Pivot, aujourd'hui avec Mathieu Turgeon, Product Owner chez OpenMind et Dev2CEO. On a eu la chance d'enregistrer d'autres épisodes ensemble, dont l'épisode 32, 7 conseils pratiques pour une mise en production. Aujourd'hui, on va parler, on va répondre à une question que beaucoup de nos clients, prospects également ont de est-ce que je devrais continuer à investir dans le développement de mon logiciel ou mon SaaS ou suis-je rendu à moderniser? Donc, la fameuse question si on va à gauche ou à droite. Et là, on s'est dit, pourquoi pas inviter Mathieu qui a une bonne tête là-dessus. Donc, Mathieu, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu aujourd'hui?
Merci, ça va très bien. Et toi?
Ça va absolument bien. Bien content d'enregistrer cet épisode-là parce que on l'explique beaucoup de manière un à un avec les gens pour les aider dans leur réflexion. Et là, enfin, on va avoir un enregistrement qu'on va être capable de partager à tous avec un contenu à forte valeur ajoutée. Donc, restez des nôtres jusqu'à la fin, honnêtement, du bon contenu qui va vous aider dans votre réflexion à travers tout ça. Donc, la fameuse question, est-ce que je continue à investir dans l'application que je développe, même si elle est vieille, ou je la modernise? Avant de s'y attaquer, je pense qu'il faut expliquer un petit peu c'est quoi une réécriture à ce moment-là d'un logiciel, c'est quoi une modernisation et surtout pourquoi il faut, dans beaucoup de cas, réécrire un logiciel et on va terminer à la fin avec la série de questions que vous devez vous poser et des réflexions à travers tout ça. Donc, si on sort la définition de qu'est-ce qu'une réécriture d'un logiciel, donc une modernisation complète, selon notre ami ChatGPT, la définition est la suivante. La réécriture complète d'une application intervient lorsqu'un langage obsolète, une dette technique importante ou une mauvaise maintenance rendent la mise à jour inefficace. Elle vise à moderniser l'application, améliorer la performance et la maintenabilité en repensant l'architecture et en utilisant des technologies actuelles. Moi, je regarde ça, je lis ça et ça va être intéressant parce qu'avec le contenu de cet épisode-là, on va venir énormément bonifier cette définition-là. Je pense qu'il manque des choses, il manque des détails importants qui vont aider à la réflexion à travers tout ça. Premier élément que je voudrais apporter à tout le monde qui nous écoute, c'est de répondre à la fameuse question « C'est quoi la durée de vie normale d'un logiciel qui est développé et qui n'est pas modernisé en continu à travers le temps? » Donc, généralement, un logiciel, ce qu'on voit dans l'industrie, il n'y a pas de chiffre extrêmement précis, mais ce qu'on observe chez les clients et dans le marché, généralement, un logiciel qui est écrit et qui n'a plus nécessairement d'ajout de fonctionnalité, bien, ça va durer généralement un 6 à 10 ans. C'est très rare qu'on va excéder 10 ans pour une ou plusieurs des raisons qu'on va identifier un petit peu plus bas, dans le fond, 6 contextes ou 6 signes qu'on est dû pour une modernisation. Je pense que c'est un petit peu ce que tu vois également, Mathieu, de ton côté, un 6 à 10 ans dans le marché et de par ton expérience, je pense.
Oui, dans les recherches que j'ai faites pour les besoins du podcast, c'est par l'expérience des dernières années, ce que je voyais aussi. On a des clients qui sont venus nous voir, des fois après 5 ans, ils se posaient la question justement qu'on va répondre aujourd'hui sur entre versus mettre à jour, moderniser ou réécrire complètement l'application. Et on a eu des projets aussi que ça fait 10, 15 ans. Puis là, je travaille sur un que ça fait beaucoup plus longtemps, que ça fait une vingtaine d'années, mais qui n'est vraiment pas le classique, là. Quand on parle vraiment en termes de legacy recoding, on parle vraiment d'une vingtaine d'années, mais dans les cas plus majeurs, plus récents, c'est plus, je dirais, ça, entre le 6 et 10 ans, même pour des grosses entreprises, c'est quand même le même phénomène, là.
Et on va expliquer à la fin du podcast, ou du moins ouvrir une porte à ce niveau-là, de comment essayer d'éviter une modernisation complète ou une réécriture complète du système. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin, parce que le but, c'est idéalement de vous éviter ce genre de cas qui peut être quand même coûteux, autant au niveau monétaire qu'en ressources de temps, qu'en blocage de l'entreprise par rapport aux nouvelles fonctionnalités. Prochaine étape pour avancer dans le podcast, on va parler de 6 signes ou 6 contextes qui, 6 signes dans le fond, qui nous donnent de l'information que le logiciel qu'on a développé nécessite une modernisation ou est dû pour une modernisation. Donc, on a réussi à ramener ça dans 6 catégories ou 6 signes ou 6 contextes. On va les descendre un à un. On vous invite à réfléchir à ce moment-là et à mettre dans votre propre contexte, à savoir si ces signes-là, vous les voyez, vous les percevez, vous les entendez dans votre entreprise par rapport au logiciel qui a été développé sur mesure pour vous. Donc, le premier contexte ou le premier signe qu'on voit très régulièrement, c'est un enjeu de performance. Mathieu.
Oui, je dirais un enjeu de performance à 2 volets. Premièrement, c'est le performance classique, on dit c'est lent. J'ouvre l'application, chaque opération prend beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment une performance assez standard. Donc, ça peut être le système qui peut générer cette lenteur-là, ça peut avoir été mal monté, ça peut être juste l'ajout de fonctionnalité qu'au fil du temps, le système est devenu lent, ça peut être l'infrastructure, et plein de raisons qui peuvent donner la performance. Mais il faut aussi penser aussi à la performance en termes opérationnels, en termes des gens en arrière de l'ordinateur, en arrière du système. Donc, ça peut arriver que le système, il répond super bien. Par contre, il était forcé de faire des opérations étape par étape sans raison logique pour les utilisateurs. Donc, la personne, elle, considère que son temps est mal investi, c'est pas dans le temps à valeur ajoutée qu'elle fait. Donc, elle-même ne devient pas performante dû au manque du système.
Donc, dans les deux cas, on pourrait dire que ça ralentit mon entreprise là, de voir soit le logiciel ne bouge pas assez vite en termes de rapidité d'exécution ou ne bouge pas assez vite en termes de s'adapter à l'entreprise pour répondre aux nouveaux besoins qu'on a. J'ajouterais peut-être de manière ad lib un point supplémentaire sur l'enjeu de performance. C'est quand vous intégrez des nouveaux joueurs dans votre organisation et que les gens ont de la difficulté à apprendre le fonctionnement du logiciel parce que les écrans sont vieux, parce que la logique de navigation, elle est rendue tellement pêle-mêle parce que ça n'a peut-être pas été construit de manière bien réfléchie, parce que ça ne réagit pas de la manière que les gens pensent que ça devrait réagir. On pense à des vieux écrans DOS qu'il faut absolument naviguer avec seulement avec le clavier, alors qu'aujourd'hui, tout le monde est habitué avec la souris ou avec des standards d'interface utilisateur que les gens sont habitués à avoir, mais que ce n'est pas le cas dans le logiciel. Donc, il y a peut-être cet enjeu-là de performance aussi à regarder. Si vous voyez que les nouvelles personnes qui rentrent dans votre organisation font « Oh mon Dieu, c'est difficile d'apprendre ce logiciel-là, puis c'est donc bien un casse-tête, puis c'est pas plaisant, puis c'est pas le fun », vous vous ralentissez dans le fond. C'est un autre type d'enjeu de performance que vous vivez à ce moment-là parce que le logiciel est probablement dû pour une modernisation. Deuxième signe qu'on est peut-être dû pour une modernisation, c'est des enjeux de limitation de fonctionnalité ou d'évolution. Mathieu.
Ben, en fait, le point est parfait parce que justement, en milieu informatique, on le sait tous, l'évolution évolue grandement, c'est de manière exponentielle. Avec l'intelligence artificielle qu'on a vue dans les dernières années, ou dans la dernière année pour certains, arriver vite, plus vite qu'on pensait, ça démontre vraiment qu'il faut être réactif. Et donc, là, il y a beaucoup de systèmes qui ne peuvent pas être aussi réactifs sur des changements. Tantôt, on parlait d'une interface utilisateur. Les gens ne réagissent pas de la même manière dans l'interface de ce qu'il y avait il y a 20 ans versus ce qu'il y a aujourd'hui. Et même, je recule le 5 ans, regarde des sites web, regarde des applications, on voit aussi qu'il y a eu des changements à ce niveau-là. Donc, certains systèmes ont besoin de moderniser puisque justement, il y a un frein à ce niveau-là pour par rapport à l'évolution. Peut-être qu'il y a des freins au niveau de l'automatisation. Il y a des systèmes qu'on est bloqué. On a pu automatiser certaines étapes, puis par contre, on est bloqué, qu'on ne peut pas atteindre la pleine automatisation qu'on voudrait atteindre pour réussir à être pleinement performant. Donc, voilà que je regardais, c'est la partie accès aux bases de données. Il y a beaucoup maintenant de CEO, des CFO qui veulent vraiment accéder aux données brutes pour pouvoir faire l'analyse d'affaires. Il y a des systèmes que la donnée est difficile à atteindre. Donc, des fois, c'est important de pouvoir changer la base de données, mais ce n'est pas nécessairement très aisé de le faire pour certains systèmes. Donc, il y a d'autres systèmes, par contre, que l'accès à la donnée est beaucoup plus facile. Donc, pour les gens qui réussissent à créer des rapports, des Power BI, des choses comme ça.
Donc,
ouais, tu veux
continue Mathieu,
peut-être?
Vas-y. Continue Mathieu, je te laisse continuer.
Ah non, pas de problème. La partie, je disais tantôt, au niveau de l'intégration de l'intelligence artificielle, donc c'est pas tout de dire que je voudrais avoir l'intelligence artificielle dans le système. Il y a des systèmes que ça ne le permet pas, d'autres systèmes que c'est très difficile de réintégrer, ça demande beaucoup de ressources. Puis il y en a d'autres au contraire, c'est peut-être déjà pré-pensé au niveau de la donnée de pouvoir réussir à ajouter un système de l'intelligence là-dessus. Mais encore une fois, il faut l'évaluer, ça, donc ça dépend du système. Et je dirais le dernier point que je vais mentionner, c'est la partie évolution de l'entreprise en tant que telle. C'est vrai que le système fonctionnait très bien au jour où il était monté, qui a évolué au courant des dernières années. Mais vous, en tant qu'entreprise, vous avez fait des acquisitions de d'autres entreprises, vous avez fait grossi, vous êtes rendu à travers le monde, à travers le Canada, vous avez plusieurs entrepôts. Puis là, vous faites toujours des entourloupes, puis vous faites des voies de contournement pour réussir à atteindre vos objectifs. Mais c'est justement des voies de contournement, puis que les systèmes vous bloquent, vous complexifient les étapes parce que justement, le système n'a pas été pensé pour évoluer à la vitesse que vous évoluez.
Et j'aimerais mettre l'emphase, puis légèrement revenir en arrière sur le point de l'intégration de l'intelligence artificielle. Ça sera dans les prochains trimestres, les prochaines années, ça ne sera pas seulement un élément, je dirais, nice to have. Donc, je ne sais pas comment bien le traduire en français, mais une possibilité d'avoir, mais ça va être plutôt une nécessité de, parce que la compétition va le faire, d'intégrer l'intelligence artificielle dans les différents systèmes, dans leurs différents logiciels, et ça va venir multiplier l'efficacité des automatisations, donc amener beaucoup plus de retours sur investissement de ce qu'on met dans le logiciel directement. Donc, assurez-vous vraiment, là, si la technologie sur laquelle repose votre logiciel à l'heure actuelle ne permet pas l'intégration de l'intelligence artificielle, ou du moins la possibilité de, à mon point de vue, à mon opinion, cet élément-là, excusez-moi l'expression, un deal breaker, vous devez fortement réfléchir à une modernisation pour aller chercher la pleine efficacité de vos investissements futurs là, devant vous. Fait que c'est quelque chose de très critique en date d'aujourd'hui à l'heure de l'enregistrement de ce podcast-là. Prochain signe qu'on peut voir, au prochain contexte, ça peut être des enjeux de compatibilité. Peux-tu nous parler un petit peu de ça, Mathieu?
De compatibilité, ça, en fait, c'est souvent qu'on veut intégrer ça dans les solutions tierces. Souvent, le système répond à plusieurs besoins d'affaires, mais il y a besoin d'avoir une autre solution qui va permettre de faire autre chose. Par exemple, vous avez une solution d'ERP qui est vieillotte. Par contre, elle n'est pas intégrée pleinement avec un système de punch. Les personnes peuvent réussir à rentrer leurs données, leurs feuilles de temps. Mais si on a un système pour les feuilles de temps, il y a un système pour les données comptables, un système pour les gestions de commandes. Puis les systèmes ne se parlent pas l'un avec l'autre. Ils sont difficilement parlables. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des systèmes que vraiment on ne peut pas les faire parler. Il y a vraiment différentes boîtes noires. Donc, ça se posait la question, est-ce que ça devient un enjeu dans votre contexte? Ça se pourrait que des fois, il y a des développements qui peuvent faire parler deux systèmes entre eux. Mais des fois, ça devient comme très complexe. Alors que des fois, si je fais cet enjeu-là versus avec d'autres, c'est une bonne raison de réussir à amener vers une modernisation complète de neuroécriture. Je pense, entre autres, ça fait longtemps que le système de scanner existe des entreprises, de pouvoir scanner un barcode pour que ça rentre dans le système. Mais les systèmes, le principe de scan a évolué avec le temps, et devenu avec des scans de code QR et d'autres types, avec les puces, etc. Donc, c'est parmi que le système il a été bloqué. Ils ne peuvent pas recevoir la donnée qui a été scannée par le système. Donc, encore là, vous dépendez par un autre système pour réussir à faire ce type de scan-là pour être complètement compatible avec les solutions, les hardware que vos opérations nécessitent. Puis on pense aussi à l'évolution, je parle aussi, je fais le lien aussi avec l'évolution de tantôt, bien, la compatibilité avec les d'autres plateformes. Donc, peut-être que votre plateforme, initialement, marchait très, très bien sur Windows 7, je n'irai pas trop loin, mettons à Windows 7, puis finalement à Windows 10, Windows 11, puis là, vous voulez me faire marcher sur tablette, Là, ça vient comme, encore une fois, ça prend un peu de patch dans ce tour-là pour réussir à le faire fonctionner sur les autres systèmes. Donc, une fois que ça a fonctionné, je l'ai vu que les personnes ont un très vieux système. Il fonctionne sur iPad, ça fonctionne. Est-ce que c'est pleinement efficace, est-ce que c'est intuitif? Non, vraiment loin de là. C'est une raison pourquoi on est arrivé dans cette solution-là. Donc, mais est-ce que, posez-vous la question, est-ce que les gens seraient plus efficaces avec une réécriture complète ou ils vont demeurer pareil avec la solution actuelle, avec les médiums que les gens ont besoin? Ils s'attendent à avoir utilisé un téléphone. Donc, je vois encore des systèmes que je le teste sur un téléphone, l'interface ne fonctionne pas du tout. Ils disent, ouais, c'est parce que la solution qu'on a actuellement, elle ne peut pas marcher sur mobile. Je vous mets là, c'est parce qu'aujourd'hui, je dirais 90% des gens travaillent excessivement bien sur mobile ou magasinent bien sur mobile. Je peux pas penser, mettons, à un site web, là, on ne fait pas de site web, mais penser à un site web, je dis, si on le faisait juste en mode desktop, on a passé au mobile, puis là, encore aujourd'hui, je verrai encore des sites qui ne marchent pas bien sur mobile. C'est impensable, vous paraissez ultra mal. Bien, je me mets à la position d'un employé qui rentre chez vous et qui dit, l'application, écoute, je devrais l'utiliser sur mon iPad parce que je travaille toujours avec mon iPad. Il fait, ah non, ça ne marche pas sur iPad. Des fois, juste en termes de paraître aussi, ça peut avoir une influence aussi au niveau des joueurs avec qui vous travaillez.
Et c'est un bon point, tu apportes toute la partie mobile. Si votre logiciel n'a pratiquement aucune fonctionnalité mobile, ça vient déjà de vous lever à ce moment-là un drapeau probablement pratiquement rouge parce que ça vous bloque pour toutes les fonctionnalités qui devraient déjà être disponibles avec les appareils. Mais également, si ces appareils-là ne supportent plus le logiciel que vous avez développé, bien, ça devient problématique. Fait qu'on le voit dans le cas, exemple, dans des manufactures où ce que il y a des scanners pour justement des codes à barre pour l'inventaire. Et là, les gens font des pieds et des mains pour aller chercher des vieux appareils usagés pour être capables encore de faire fonctionner les scanners à code barre. Et là, il n'existe plus de nouveaux appareils qui permettent de rouler le logiciel ou du moins cette version-là du logiciel. Là, on est coincé là, en termes matériels directement. Et souvent, ça peut être la même chose au niveau des serveurs. Si vous êtes hébergé à l'interne chez vous, validé, la version du Windows Server ou peu importe l'autre système d'exploitation, quand la prochaine version, vous allez être obligé de changer pour une question de sécurité, entre autres, parce que Microsoft ne maintient pas à l'infini les mises à jour de sécurité sur ces différents systèmes d'exploitation. Vous allez peut-être être forcé ou plutôt vous allez peut-être vous ramasser devant un mur de dire, mon logiciel, je ne peux pas l'installer sur cette version-là de serveur-là. Et là, vous allez être en mode panique au bout de la ligne. Donc, il y a une question pas juste de périphérique que l'utilisateur a dans ses mains. Mais il y a toute la partie serveur en arrière de tout ça. Et ça, si votre partenaire qui vous accompagne n'a pas fait une validation de tout ça, assurez-vous de vérifier avec lui ou faites-nous signe carrément, on peut faire un petit audit et regarder ça. Bon, on s'est ramassé dans des cas où ce que, les clients étaient en panique pour se rendre compte que dans 6 mois, leur serveur allait carrément ne plus être mis à jour au niveau sécurité. Et les nouvelles versions des logiciels de Windows Server n'étaient pas compatibles avec le code qui avait été développé. Et là, on se ramasse vraiment dans une impasse et avec carrément un fusil là, sur la tempe, là, de dire soit qu'on vit avec des trous de sécurité en avant de nous, ou soit qu'on réécrit en panique et ça coûte une fortune et ça l'engendre son lot de problématiques au bout de la ligne. Donc, ça, assurez-vous de ne pas être dans cette situation-là au final parce que ce n'est vraiment pas bénéfique pour vous. Et je reviens également sur l'intégration des solutions tierces. Si on recule il y a 10 ou 15 ans, c'était rare qu'il y avait des logiciels préfabriqués, qu'on peut appeler des logiciels tablettes ou des logiciels standards, qui étaient très matures dans leur fonctionnalité puis dans l'efficacité de prendre certains processus en charge dans les organisations. Aujourd'hui, on est un peu à l'opposé. Il y a beaucoup de logiciels qui existent, même des fois trop, et on se retrouve avec un paquet de logiciels préfaits dans son organisation qui ont parfois des très bonnes forces, mais dans des petits segments de l'organisation. Et là, ce qui arrive, c'est que vous allez avoir besoin d'interconnecter ces systèmes-là ensemble, puis éventuellement d'ajouter des fonctionnalités. Parce qu'il ne faut pas se cacher qu'un logiciel standard que vous intégrez, ça veut dire que vous devez adapter vos processus d'entreprise au logiciel. Alors que le logiciel sur mesure, vous adaptez le logiciel à vos processus. Donc, tôt ou tard, vous allez avoir besoin de sur mesure à travers tout ça. Si vous avez déjà un core qui est développé sur mesure, mais qui est rendu vieux, vous allez avoir la difficulté à continuer à intégrer ces différentes parties autres à travers votre organisation-là, ces différents logiciels, entre autres. Donc, ça va devenir un frein et ça va être une problématique. Et ça l'est peut-être déjà de votre côté parce que c'est la tendance qu'on voit dans le marché à l'heure actuelle.
Bien,
Maintenant.
on l'a vu, je juste rajouter un petit point là-dessus, parce qu'on le voit souvent que pour arriver d'autres fois dans l'entreprise, où on parle aux différents départements, pour les plus grosses plus grandes organisations, on a vu justement que des fois, chaque département a trouvé sa solution sans nécessairement faire le pont l'une avec l'autre. Puis des fois, on arrive, on fait « Oups, mais lui, il a déjà pensé à ça. Lui, il a travaillé à ça. » Là, vous avez travaillé tout en silo. Donc, c'est bon, justement, de faire une rencontre ou des rencontres pour essayer d'avoir l'intégralité du système informatique laquelle qui se parle puis laquelle est nécessaire à garder au niveau de l'entreprise.
Exactement. Avant-dernier point, on parle d'enjeux de sécurité ou de réglementation. Mathieu?
Bien, en fait, ça fait le pont à ce que tu disais justement. Donc, il y a des problèmes, des fois, de la sécurité en général des entreprises, puisque justement, on garde les infrastructures obsolètes. C'est connu que les différents cadres logiciels se mettent à jour souvent. Les meilleurs se mettent à jour souvent pour justement assurer que la sécurité est là et de manière optimale. Les enjeux de sécurité, il y en a toujours, il y en aura toujours, il y a toujours des brèches dans les différents logiciels. Sauf que les partenaires, les développeurs s'assurent justement de pouvoir les régler ou dès que c'est retrouvé. Mais si nous, en tant que partenaire ou vous, en tant que client, n'assurez pas une maintenance au niveau des cadres logiciels-là, les frameworks ou au niveau des logiciels, vous gardez toujours une petite porte ouverte. Ça se peut que vous soyez chanceux que vous n'avez pas eu de problème depuis 5, 10, 15, 25 ans en termes de sécurité, mais le jour que ça va arriver, là, on va être un peu comme disait tantôt Jonathan, c'est un phénomène domino et un phénomène d'urgence, et c'est à ce niveau-là que ça devient ultra difficile, ça met à risque votre entreprise. Donc, il faut toujours se mettre à l'avant, finalement, des enjeux de sécurité. On ne peut pas dire, je vais les faire une fois par deux ans, les mises à jour de sécurité. C'est trop lent. Même s'il y a eu déjà des problèmes de sécurité dans l'entreprise majeure, ce que j'ai retrouvé pour le podcast, c'est Equifax a déjà eu des problèmes de sécurité en 2017. Donc, par rapport à une brèche de sécurité qui a eu lieu sur leur système Apache, qui est connu robuste, avec Java. Donc, c'était une vieille vulnérabilité qu'il y avait, qui était là depuis 9 ans, qui n'a pas été adressée, mais s'il avait pas fait les mises à jour, on est porté à croire que le problème aurait été résolu. Il y aurait qu'une garantie, il y aurait peut-être trouvé une autre brèche autrement, mais vous autres, c'est de réduire le risque. C'est ça, notre rôle, c'est de vous assurer de réduire le risque au maximum et vous, c'est de pouvoir réussir à le mettre à jour.
Donc, et c'est complètement aberrant qu'Equifax s'est fait pirater parce que probablement il n'a pas vu qu'il devait moderniser ou du moins qu'il s'est bien occupé au niveau sécurité. Il est supposé être un peu le protecteur de nos données. Et là, ça a été l'inverse, malheureusement. Même chose avec Desjardins. Mais derrière tout ça, il y a une logique que vous avez une responsabilité encore plus grande qu'eux en 2017, là, parce qu'il y a la loi au niveau de la protection des données qui est maintenant en vigueur dans notre territoire du Québec et bientôt du Canada. Et ça, si vous avez des traces de négligence, vous pouvez être tenu responsable envers des très gros montants à payer, des très gros dédommagements au bout de la ligne. Donc, c'était pas à prendre à la légère il y a plusieurs années en 2017, mais c'est encore moins aujourd'hui à prendre à la légère, ou du moins, vous devez avoir un bon plan et de voir clair là-dessus. Là. Et un bon partenaire peut venir vous aider là-dessus, que ce soit nous, que ce soit un autre partenaire, peu importe, mais assurez-vous de vérifier c'est quoi vos risques, où est-ce que vous en êtes, et s'assurer de respecter pas vos engagements, mais vos obligations envers cette fameuse loi-là. Là.
En fait, juste pour finir le point sur la sécurité, c'est que vous ne devez pas vous dire « je n'ai pas eu de problème de sécurité, donc je n'en aurai pas ». Donc, j'ai un vieux système qui était secure, donc il l'est encore. Ça ne veut rien dire. Justement, c'était longtemps, puis je dirais, il faut te parler qu'encore aujourd'hui, les hackers, ils ciblaient des vieux systèmes, des vieilles versions de Windows ou d'autres systèmes qui avaient des brèches qui n'étaient plus supportées. Donc, ils font exprès d'aller attaquer des vieux systèmes qui ont une brèche connue et qui savent qu'ils ne seront pas, qui n'ont pas été adressés. Donc, même si c'est un vieil OS, disons que c'est un vieil OS, probablement qu'il y a quelqu'un qui veut trouver, une brèche, donc vous mettez à risque.
Ce qui nous amène au dernier signe ou contexte qu'on est dû pour une modernisation, et celui-là, c'est un de ceux qu'on voit extrêmement fréquemment dans les entreprises. C'est un enjeu de disponibilité des personnes compétentes pour continuer le développement et le support de l'application, donc un enjeu de résilience. Mathieu, peux-tu nous parler un petit peu de ça ou des cas que tu as vus de ton côté? Là?
Oui, le premier cas que j'ai vu souvent, c'est d'une solution sur mesure qui a été faite, puis qui a été faite par une seule personne. Une personne faite dans son garage, je mets ça gros, mais la personne qui a fait qu'une petite entreprise a développé la solution Je ne jugerai pas la qualité, mais l'important, c'est que c'est une seule personne qui l'a faite et qui a pensé pour elle-même. La personne, elle peut avoir décidé de changer de domaine, ne plus être disponible, avoir trop de contrats, être surchargée, puis elle n'est plus aussi accessible qu'elle était au moment que vous avez commencé le travail avec cette personne-là. Donc ça peut devenir un enjeu avec le temps. Puis c'est pour ça que des fois qu'on a vu des clients avec nous venir nous voir. Ça, ce n'est un cas. L'autre cas, c'est que la personne, c'est une personne qui est au sein de l'entreprise, qui est là, mais que vous allez voir qu'elle va partir, vous allez devoir partir à la retraite, hein, ou qu'il n'y a plus aucune ressource, le framework, le logiciel, il n'y a plus de documentation, les ressources sont éparpillées à travers le Canada ou à travers le monde, qu'il y a une personne par-ci par-là qui a une expertise dédiée. Mais sinon, il arriverait quelque chose, le feu pogne, vous devez recommencer, vous devez corriger un bug essentiel maintenant. Si vous n'êtes pas capable d'adresser ça dans l'heure qui suit, ben ça démontre que vous avez un enjeu de disponibilité, là. Donc c'est ça, la personne est quand même juste pas à côté de vous autres, mais c'est qu'en plus, il faut réussir à trouver la personne qui va réussir à répondre à la question, qui va pouvoir réussir à accéder au fichier, qui va pouvoir réussir à mettre à jour. En disant tout, ça me dit ça aussi, des fois que la personne est là, mais elle se retrouve plus. Si vous n'avez pas fait une maintenance en continu sur le logiciel, ça ne veut pas dire que le jour que vous allez avoir une urgence, que la personne va être disponible, ça ne veut pas dire que le code et le système vont pouvoir être facilement mis à jour non plus, là. Donc, c'est à ce niveau-là que ça peut devenir un enjeu assez critique pour votre entreprise, en fait, si c'est un problème à régler rapidement.
Effectivement. Et il faut se dire aussi que ça se peut que. Il faut réfléchir aussi les gens qui sortent des écoles, c'est quoi les langages qu'ils apprennent aussi. Fait que c'est peut-être un problème qui s'en vient là, dans les 5, 10, 15 prochaines années avec le système qui a été développé, de ne plus avoir du tout de main-d'œuvre disponible. Ça peut être problématique à travers tout ça. Et là, ça vient à ce moment-là renforcer le poids dans la balance pour aller avec une modernisation.
Bien, moi, je vous en prie d'enchaîner, Joe. Le dernier point là-dessus, c'est justement dans le contexte, on s'assure, puis c'est important quand vous posez les questions, c'est pas nous de vérifier avec vos partenaires quel langage qui est utilisé, quelle technologie qui est utilisée. Donc, ça, on avait évalué sur les 10 années que OpenMind existe. On s'est toujours assuré d'avoir la technologie qui va toujours avoir un bassin essentiel de personnes, gens qui sortent de l'école ou gens qui ont des ressources. Pas trouver L'idée, c'est pas de toujours trouver le trend, de trouver la technologie qui est très tendance, mais que finalement, on voit qu'elle peut mourir d'ici un an ou deux. Donc, l'important, c'est là-dessus aussi. Il y a eu des fois des bonnes technologies, puis des fois, c'est pas nécessairement la meilleure qui gagne, mais malheureusement, c'est celle qui est la plus populaire, qui gagne, puis qui est importante de pouvoir avoir dans votre solution pour réussir à avoir une maintenance en continu.
Excellent point, Mathieu. Donc, on arrive à la fameuse question, moderniser ou non mon application logicielle. Là, je vous relance une série de questions à travers tout ça et on va rendre disponible dans les notes de l'épisode un lien pour avoir l'ensemble de ces questions-là, pour que vous puissiez descendre la même liste que ce que je vais vous parler, pour que vous puissiez vous-même réfléchir et prendre des notes à travers tout ça. Donc, allez voir dans les notes de l'épisode, on va mettre un petit lien. La première question à se poser, c'est est-ce que le système que j'ai développé est encore en développement actif ou en développement passif? Et c'est quoi la différence entre un actif ou un passif? Mais un passif, c'est qu'il n'y a plus de nouvelles fonctionnalités qui est ajoutée dans le système. On fait juste le maintenir en vie parce qu'on sait que dans 12-18 mois, on va fermer ce logiciel-là, on ne l'utilisera plus, soit parce qu'on n'en a plus de besoin, soit parce qu'on va le remplacer par un autre logiciel qui est déjà préfait au bout de la ligne. Donc, si vous êtes en passif, ça se peut qu'une modernisation ne soit pas logique d'aller de l'avant. Par contre, si vous êtes encore en développement actif et que vous pensez encore continuer en mode actif pour les prochaines années, généralement, vous devez mettre ça avec un poids très élevé dans la balance parce que plus on est moderne dans ce qu'on a utilisé comme code, comme langage, comme framework, généralement, plus qu'on gagne en rapidité et en efficacité pour livrer des nouvelles fonctionnalités. Et souvent, le fait de moderniser et réécrire un système, on va défaire tout le spaghetti qui s'est bâti à travers le temps, qui crée une lourdeur pour livrer des nouvelles fonctionnalités. Donc, première question, est-ce que vous êtes encore en développement actif ou passif? Quand vous êtes en actif, généralement, ça devrait être un bon élément qui est pesant dans la balance.
Point à rajouter là-dessus, pensez aussi, est-ce que les règles d'affaires ont évolué avec le temps? Donc, pour voir, est-ce que, parce que c'est pas nécessairement votre développement pourrait être passif, mais aurait peut-être dû être actif, justement parce que les règles d'affaires ont évolué juste dans les 10 dernières années, ou même, je dirais, dans les 2 dernières années. Je disais tantôt, plutôt, si l'entreprise a évolué, vous avez fait des acquisitions, des changements au niveau des processus, peut-être que, justement, les processus n'ont pas été évolués au niveau du système en même temps, et donc, là, vous avez une dette au niveau du système, et Au contraire, si jamais il y a eu des changements, mais que les changements, c'était rajouter juste des piles une par-dessus l'autre, que là, c'est devenu au fil du temps un système avec du code spaghetti, ce qu'on disait Jonathan, ben, c'était que là qu'on a peut-être mieux de faire table rase puis de réécrire à ce moment-là pour réécrire proprement et que ce soit plus maintenable et plus finalement évolutif, là. Donc, il faut vraiment voir si ça a changé au niveau de l'entreprise ou pas, là.
Et c'est là qu'un bon partenaire peut vous aider à analyser un petit peu le code, vous émettre une recommandation, savoir est-ce que ça a bien été fait, est-ce que ça a bien été monté, combien ça peut coûter aussi à haut niveau de faire une modernisation complète, combien de temps ça prend. Donc, demandez à votre partenaire. Si vous n'avez pas de partenaire de confiance, n'hésitez pas à venir nous faire signe, on peut vous aider là-dessus. L'important, c'est de le faire au bout de la ligne. Donc, deuxième point que j'ai déjà parlé un petit peu dans le premier mois, c'est est-ce que je pense encore utiliser le logiciel dans les prochaines années ou je suis certain de ne plus l'utiliser. Donc, ça vient rentrer dans la balance. Souvent, c'est relié justement avec un développement actif ou un développement passif. Troisième question à se poser, c'est suis-je dans une position critique à risque? Donc, exemple, s'il y a des failles de sécurité dans le système et que là, ça doit être adressé et une modernisation est obligatoire pour ça. Ça devient à ce moment-là très lourd dans la balance pour dire oui, il faut y aller de l'avant pour une modernisation. Ça peut être la même chose au niveau d'une position critique à risque pour la résilience. Exemple, tout mon logiciel qui est développé à l'heure actuelle repose sur une seule personne. Qu'est-ce qui va arriver si cette personne-là tombe malade ou décide de ne plus être là demain ou qu'il arrive un accident? Là, vous êtes dans une position critique à ce moment-là. Fort probablement, il faut penser ou peser dans la balance d'aller de l'avant vers une modernisation. Dernier point également au niveau de la position critique, c'est est-ce que les périphériques sur lesquels repose l'utilisation de ce logiciel me crée un mur de Chine au bout de la ligne, que comme quoi je vais frapper un mur dans X mois, X années, dire que je ne serai plus capable de le faire fonctionner sur aucun serveur parce que la dernière version de Windows Server qui est disponible pour faire fonctionner ça ne sera plus supporté dans une date X et les nouvelles versions ne seront pas compatibles, qui imposent une modernisation. Donc, ça, c'est les autres éléments à prendre en compte dans la balance pour la partie position critique à risque. Ensuite, il faut se poser la question, quelle est la dette technique à adresser à travers tout ça? C'est un peu ce que Mathieu disait. Si on a accumulé beaucoup, beaucoup, beaucoup de dettes techniques à travers le temps, est-ce que c'est mieux de faire une réécriture complète que, à ce moment-là, adresser cette dette technique-là? Mathieu, je pense que tu avais des statistiques ou des chiffres qui venaient de grandes firmes là, qui ont fait un petit peu un sondage pour savoir c'est quoi la dette techno ou le pourcentage de temps qu'on devrait adresser par rapport à ça, là.
Oui, McKinsey qui fait beaucoup de recherches sur les investissements pour les grandes entreprises du Fortune 500. Ils ont évolué pour la dette technique, considérant que surtout dans le top 20, dans le top 20%, eux autres considéraient qu'il y avait à peu près 20% de dette technique au sein de l'entreprise, versus ceux qui sont dans le bas du top 20, encore une fois des grandes entreprises, eux autres ont à peu près 40% de dette technique qui avaient une nécessité critique ou sévère de faire une modernisation. Donc, conclusion, je rapide, là, pour aujourd'hui, c'est-à-dire normalement ceux qui investissent plus au niveau de la dette technique, donc en ont moins et réussissent mieux aussi. Plus que finalement, moins tu réussis ou moins tu investis, il y a un risque de cause à effet à ce niveau-là.
Ce qu'on recommande beaucoup à nos clients et à toutes les gens qui font du développement logiciel sur mesure, c'est d'adresser sprint par sprint un petit peu de dette technique, donc une bouchée d'éléphant à la fois pour pas avoir une grande accumulation de dette technique qui peut forcer à ce moment-là une réécriture complète du système. Donc, les pourcentages souvent qu'on voit de temps par sprint, on recommande généralement de notre côté un 10 à 20 % du temps par sprint qui devrait être dédié pour faire du refactoring et d'adresser cette dette technique-là au final. Ce qui arrive souvent, c'est que les clients ont des fonctionnalités supplémentaires qu'ils veulent passer avant d'adresser ce temps-là. Donc, on va recommander de viser peut-être un 25 à 30 % et il y a certains sprints qui vont en avoir zéro, ce qui va nous ramener à un 10 à 20 % à ce moment-là du budget qui serait adressé à la dette technique dans le but d'éviter une modernisation, une réécriture complète à travers le temps ou du moins de la repousser le plus loin possible devant nous.
Je le comprends. En tant que protocoleur, c'est mon rôle aussi de pouvoir adresser qu'est-ce que le plus de valeur pour le client, plus de valeur pour le produit à investir. Et c'est toujours un peu difficile quand l'équipe me dit, ben là, pour le prochain sprint, je dois prendre 10 heures, 20 heures, 40 heures, 50 heures à faire de mettre à jour le framework ou de faire une feature. Je dis, ben pourquoi que je vais mettre à jour le framework? Ben c'est des enjeux de sécurité. Bon, j'avoue que c'est pas vendeur tant que ça pour certains clients, certains produits. Bien, en dessous, puis faire la nouvelle feature que les users vont être très, très, très contents d'avoir. Mais malgré tout, faut pouvoir se garder ce beat-là. Si on ne garde pas cette fréquence-là, ça se perd assez facilement. Donc, il faut rester à se forcer nous-mêmes à dire, là, il faut prendre le temps, il faut s'arrêter. On n'a pas le choix. Sinon, on fait juste pelleter par en avant le problème, puis on va juste accumuler. Puis dans 2 ans, on va dire, mais pourquoi qu'on ne l'a pas fait? Ah, j'ai voulu faire telle feature. Ouais, mais c'est peut-être, mais là, on va y copier à terme.
Et là, un coup qu'on a regardé et répondu à ces différentes questions-là, il faut rassembler cette information-là et évaluer par la suite le retour sur investissement versus l'effort qu'il faut y mettre pour faire une modernisation. Mais pour réussir à faire ça, il faut réfléchir à, ou plutôt posez-vous la question, c'est quoi vos objectifs d'affaires pour les 5 prochaines années et en quoi ce logiciel-là est important ou est critique dans l'atteinte de ces objectifs-là? Si vous mettez sur papier vos objectifs, vous dites c'est obligatoire que le système suive pour qu'on soit capable de se rendre à destination et que vous êtes sur un vieux logiciel qui est dû pour être modernisé, ça va probablement énormément vous ralentir. Fait qu'il n'y a pas nécessairement juste un gain calculable en retour sur investissement à court terme, mais il faut y aller aussi à long terme pour être certain que ça suive la parade qu'on va aller joindre. Et il ne faut surtout pas omettre dans le retour sur investissement de mettre un certain point sur le côté de gain humain, donc la formation des gens, l'embauche, la rétention. On sous-estime énormément le temps que ça prend, ou du moins l'énergie qui est perdue là-dedans, et surtout la rotation de staff. C'est pas plaisant pour quelqu'un de travailler dans un vieux logiciel à longueur de journée qui n'est pas rapide, qui n'est pas adapté tout à fait à la réalité d'aujourd'hui de l'entreprise, qui n'est pas mobile, qui n'est pas beau visuellement. Ça crée à ce moment-là de la rotation. C'est comme d'embaucher un cuisinier, mais de ne pas lui donner les bons outils au bout de la ligne. Il ne sera pas super efficace, puis il ne restera pas longtemps dans la cuisine. Il va aller dans une autre cuisine ailleurs où c'est plus à jour à ce moment-là, là.
Oui, ça arrive. On a souvent des problèmes justement d'embauche, des problèmes que les gens ils pouvaient faire de ghosting. Donc, ils viennent, ils sont embauchés, ils viennent pour une journée, puis oups, il a disparu le lendemain. Je sais pas qu'à chaque fois que quelqu'un dit du ghosting, ça cause un problème de l'échelle, mais force est d'admettre que je l'ai entendu, que des fois, c'est une influence sur la perception de dire, ouf, je suis pas certain que j'ai le goût de rester là parce que pour expecter l'ambiance ou ouais, ils n'investissent pas, les personnes n'investissent pas dans leur échelle, dans leur solution. C'est entendu. Donc, à faire attention puis à le considérer.
Et on voit souvent qu'il y a des entreprises qui embauchent des humains et ils leur demandent « gagner, s'il vous plaît, la course automobile », mais ils leur mettent dans les mains une Lada, mais ils leur demandent une performance d'une Ferrari. Et la Lada, c'est le logiciel. Et là, on demande à l'humain d'être extrêmement performant, d'aimer son travail, que ce soit agréable, mais quand la course commence, il se ramasse en arrière complètement du peloton. C'est pas agréable. Fait que donc, pensez à vos humains dans l'organisation, pensez à votre avenir aussi. C'est important que vos systèmes, vos véhicules que vous mettez dans les mains de vos humains soient efficaces, rapides et qu'ils soient plaisants à conduire. Sinon, ils ne se rendront pas à destination. Du moins, ils ne gagneront pas cette fameuse course-là que vous leur demandez versus la compétition au bout de la ligne.
Excellent.
Je termine avec un dernier petit point. Puis si jamais tu as quelque chose à rajouter, Mathieu, aussi, n'hésite pas, mais on a souvent une philosophie que la meilleure option est de faire de la maintenance et du refactoring en continu dans le but d'éviter un grand projet de réécriture. Et j'en ai parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode par rapport à ça. Souvent, quand les clients viennent nous voir et disent « je pense que je suis peut-être dû pour une modernisation », la première chose qu'on va dire, c'est « oui, on va évaluer si tu es dû pour une modernisation, mais on va t'expliquer comment tu aurais pu éviter ça d'aujourd'hui, d'investir beaucoup de sous dans une courte échelle de temps ». Et comment tu pourrais éviter aussi de limiter, parce que quand on fait une modernisation, on ne se le cachera pas, il y a un arrêt ou il y a une pause, un ralentissement des nouvelles fonctionnalités qu'on peut livrer pendant un certain nombre de semaines, de mois, voire des fois d'années. Donc, ça gèle un peu l'entreprise. Donc, notre prémisse, c'est oui, c'est bien bon, on peut moderniser, on peut t'aider là-dessus, mais on va te montrer comment tu aurais pu éviter ça, mais surtout en faisant affaire avec nous, comment on peut t'éviter une autre fois une modernisation de la sorte dans le futur. Et ça, c'est faisable par de la maintenance en continu, par du refactoring en continu. On parlait du 10 à 20. Donc, la meilleure modernisation possible, c'est pas de modernisation dans le fond. Ça veut dire que c'est de bien penser le projet, mais surtout toujours l'adapter, le mettre à jour et rebouger les structures pour les amener au goût du jour et à la logique de où ce que l'entreprise est rendue au bout de la ligne. Et pour ça, on est en train de travailler un épisode exclusif pour expliquer comment éviter une modernisation coûteuse pour vos développements logiciels. Donc, suivez-nous dans les prochains épisodes du podcast. On va avoir entre autres Christian Dion ici, qui est une sommité au niveau technique dans l'organisation. Donc, on va vous dévoiler tous les secrets de comment éviter ce fameux, je dirais, pratiquement un problème pour votre organisation de devoir, aux 5, 6, 10, 15 ans, moderniser vos logiciels en grand projet qui est énergivore en temps, en argent et en ressources et en plaisir aussi, parce que ce n'est pas non plus l'endroit qui est le plus plaisant à mettre de l'énergie au bout de la ligne. Donc voilà. Mathieu, quelque chose à rajouter avant qu'on termine l'épisode d'aujourd'hui?
Je finirais sur une analogie que j'ai vue sur la partie modernisation, pourquoi on doit investir là-dessus en continu. Le principe que j'ai vu, c'est de comparer ça avec un toaster. On se dit, c'est bizarre, un système informatique, pourquoi j'investis beaucoup puis ça dure aussi peu longtemps, là, selon le contexte que j'ai dit. Alors qu'un toaster, tu peux changer un toaster puis ça va durer 10, 15, 20 ans si ça se trouve. C'est bon, vraiment, c'est évidemment la complexité, mais vraiment aussi que le toaster, ça n'a pas tant évolué. Imaginez que le système du voltage aurait évolué à chaque année. À chaque année, on se dit, ah, ben, finalement, c'est pas du 120 volts, c'est du 125. Ah, finalement, c'est 140. Finalement, c'est 160. Puis, finalement, des tranches, plus une tranche mince de même, je veux une tranche haute épaisse. Puis là, finalement, donc, si autour le contexte évolue, il n'aura pas eu le choix d'avoir différents toasters. Mais ici, il a pensé à un toaster déjà dès le départ plus permissif, déjà des trans plus larges. Tu n'as pas besoin de changer à chaque fois que quelqu'un évolue et pense à un nouveau modèle de lopin. Mais les systèmes informatiques, c'est la même chose. On n'a pas le choix. On peut réussir à être plus prévoyant ou au contraire de dire je vais pouvoir le faire évoluer au fil du temps. Il faut être dans un contexte que tout évolue. L'entreprise évolue, le système informatique évolue. Donc, c'est quand même une chose à garder en tête.
Et les périphériques évoluent aussi, les logiciels sur lesquels repose votre logiciel évoluent également aussi, les serveurs sur lesquels votre logiciel se repose évoluent eux autres aussi, les technologies tierces et les interactions avec les logiciels externes évoluent également aussi, donc tout l'ensemble de l'écosystème bouge, fait qu'effectivement, c'est pas comme un grille-pain, c'est pas fixe à travers le temps, tout bouge autour, on s'en rend peut-être pas compte en tant que chef d'entreprise à ce niveau-là, mais ça bouge et ça va vite, et encore plus avec l'intelligence artificielle depuis quelques trimestres qui commence à arriver en grande vague. Donc voilà, super bonne analogie, Mathieu. J'avais hâte de voir où est-ce que tu t'en allais avec l'analogie du toaster, mais je la trouve extrêmement pertinente. J'espère que vous la trouvez également pertinente de votre côté. Mathieu, merci beaucoup de ta générosité pour venir parler de ce sujet-là avec nous aujourd'hui. Toujours un plaisir.
Merci.
Et pour tous ceux qui nous écoutent, je vous dis à bientôt. Un grand merci tout le monde, vous êtes très nombreux à nous suivre et à nous écouter chaque semaine. J'en profite pour dire qu'on produit ce contenu-là avec beaucoup d'énergie, d'amour et de ressources. On vous fournit tout ça gratuitement. On vous demande seulement une petite chose, un 17 secondes de votre temps. S'il vous plaît, mettez ce balado-là sur pause. Allez mettre un 5 étoiles, s'il vous plaît, sur votre plateforme de balado préférée, Spotify, Apple Podcasts. Ça fait toute la différence et ça nous aide et ça nous encourage à continuer. Donc, je vous invite également à continuer la discussion sur LinkedIn. J'ai le plaisir de discuter avec plusieurs d'entre vous chaque semaine. Encore une fois, mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine!